Donc, Bernard et Yaman, vous êtes tous les deux inculpés dans le cadre d'une affaire. Vous avez un procès parce que vous faites partie de Boycott Désinvestissement Sanctions, BDS. Alors, avant un peu de voir un peu qu'est-ce que c'est que le BDS, j'aimerais que vous raconter les circonstances pour lesquelles vous êtes inculpés.
Tous les deux, on est inculpés pour deux actions.
Ah.
Une action au mois de décembre et une action au mois de février. Là, vous avez les plus dangereux des quatre inculpés sont là. L'action la plus importante, c'était au mois de février, je crois le 7 février. Et le comble, c'est que c'était une action pour la liberté d'expression. Ce qui s'est passé au métro
Balma-Gramont.
Et... 3 semaines avant, des militants BDS avaient été agressés par un commando pro-israélien. Et il y avait eu 2 blessés, une plainte déposée. Et donc, 3 semaines après, ce rassemblement au mois de février était là pour dénoncer cette agression et demander la liberté d'expression. Si vous vous souvenez bien, on avait connu les massacres de Charlie auparavant. Et on a tout de suite senti... à travers les mesures qui étaient prises, que la solidarité avec le peuple palestinien et avec BDS allait en prendre plein la gueule. Je crois que ça a été tout de suite... Alors déjà, donc, il y a eu cette agression, et donc ce rassemblement était là. Mais à ce rassemblement, il n'y avait pas que nous. On était 70, et il y avait un huissier que la LICRA avait dépêché sur place pour prendre des photos, et il y avait un détective privé, que le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, qui est un groupuscule pro-israélien, raciste, enfin, qui a tout pour lui, avait également invité.
Un détective privé.
Un détective privé.
Ouais.
Et ils nous ont photographiés, filmés, et ils avaient plus que ça, ils avaient également des noms, déjà, et ils savaient à peu près qui ils voulaient là-dessus. Vous voyez, c'était pas du tout une opération, c'était une opération bien préparée qui s'est produite.
Parce que c'est eux qui ont fait déposer la plainte en visant des noms en particulier.
Voilà, tout à fait.
Suite à un travail de police privée.
De police privée.
Des noms et des photos.
Et des photos.
Il y avait des photos sans nom. Quand on était au commissariat, il y avait des photos sans les noms avec des points d'interrogation.
D'accord.
D'accord.
Et voilà. C'est les policiers qui remplissaient les cases manquantes.
Voilà, ils nous ont demandé à nous de leur dire qui étaient ces personnes-là.
D'accord.
Donc, voilà. En fait, la police faisait un peu l'enquête aussi pour eux en même temps, non ?
Oui. De toute façon, c'est le dossier pour le procureur.
Ouais.
En fait, ce qui s'est produit, c'est que la LICRA et le BNVCA ont joué les délateurs et ont apporté des éléments au procureur pour qu'il puisse nous poursuivre.
Donc, parce que c'est le procureur qui poursuit.
Voilà, juste, voilà. Je fais, parce que ça peut paraître un peu incroyable, c'est-à-dire que vous vous réunissez pour la liberté d'expression et pour dénoncer l'agression dont on fait l'objet des militants de BDS quelques mois avant, et plutôt que de prendre en compte éventuellement cette agression et de poursuivre les coupables de cette agression, on vous tombe dessus en vous reprochant, donc c'est quoi, l'entrave à la liberté de commerce ?
Alors exactement, oui. C'est entrave à l'exercice normal des magasins. Et lors de leur activité économique, comme ça je vous lis exactement, en se livrant à une opération d'intimidation afin de dissuader les clients de ces grandes surfaces d'acheter des produits israéliens par distribution de tracts et demande de retrait des produits des rayons. Alors, comme vous pouvez remarquer, on n'est jamais rentré dans le magasin. On
D'accord.
était quand même à 200 mètres d'Auchan, donc du magasin. Même Auchan n'a pas voulu porter plainte et s'est même pas rendu compte qu'il y avait une mobilisation ce jour-là.
Mmh.
Pour vous donner une idée. Hein.
Vous êtes inculpé pour une entrave à un magasin qui ne porte pas plainte. Pour entrave.
Oui, mais ça ne les gêne pas. Hein. Ça a déjà été le cas, en particulier à Alençon. Ils ont poursuivi des camarades BDS également, et les magasins n'ont pas voulu porter plainte. En général, ils portent rarement plainte, c'est pas bon pour le commerce.
Oui, la police, lors de son enquête, a demandé au commerce concerné, dont il n'y avait pas qu'Auchan, il y avait Sephora Orange aussi, à une autre date, s'ils comptaient porter plainte contre nous ou pas, s'ils souhaitaient porter plainte. Pour les magasins comme Sephora Orange, on dit non, ils ne nous ont pas dérangés. C'est nommé dans l'enquête. Ils étaient juste quelques-uns devant le magasin, ils ne nous ont pas dérangés. Et à Auchan, on était à 200 mètres puisqu'on était devant le métro Balma-Gramont. Donc on n'était même pas à côté du magasin. Pour certains magasins, ils ne se sont même pas rendu compte qu'on était là.
Tout à fait, c'est Orange. Orange a dit non, ils ne se sont même pas rendu compte qu'il y avait des gens devant le magasin.
Oui, un des responsables lors d'Orange a dit à l'enquêteur, ah bon, ils étaient là ce jour-là, on ne les a même pas vus, on ne sait pas qu'ils étaient là, on n'a pas fait attention qu'ils étaient là. Donc,
Mais le procureur va poursuivre, c'est ça quoi.
Il a poursuivi, puisque on passe en procès le 9 décembre, donc il a poursuivi sur le truc d'entrave. Alors, ce qui est rigolo, c'est que donc on n'a jamais demandé de retirer des produits des rayons, on n'a pas menacé des clients, hein, il y a eu une opération d'intimidation afin d'issuader les clients, ça n'a jamais été le cas. Mais en fait, ce qui s'est produit, c'est que, comme vous le savez, ces procès n'étant pas du hasard, c'est des procès politiques, ce qu'il faut dire, et c'est depuis une fameuse circulaire à Lyon-Marie qui a demandé au procureur de poursuivre les militants BDS.
2010.
Au mois de février 2010, après avoir bien mangé dans un repas du CRIF, qu'elle sort cette circulaire. Les faits qui nous sont reprochés, en fait, ils donnent aux procureurs les autres procès. Le procès d'Alençon, c'est exactement les termes. Et le procureur a fait un copier-coller sur le procès d'Alençon qui ne correspond absolument pas à ce qui s'est passé à Toulouse.
D'accord.
C'est assez pour montrer le sérieux aussi dans ce genre d'opération. C'est-à-dire qu'ils sont en service commandé. Il faut inculper du BDS. Ils ne savent pas trop comment le faire et tout. Peut-être ça les emmerde aussi. Hein. Mm-hmm. Et ils reprennent une partie qui était vraie à Alençon, mais qui n'est absolument pas vraie, parce que nous, on n'a vraiment rien, pas touché à un seul des magasins. On n'a vraiment pas... On n'est pas rentré dans les magasins comme c'était le cas à Alençon et compagnie.
Moi, ce que je pense dans cette histoire, c'est qu'à la base, ils ne voulaient pas nous inculper pour ça, mais plus pour antisémitisme. C'est pour ça qu'il y avait les détectives privés. Parce que moi, le détective privé, je m'en souviens, j'ai parlé avec lui à Balma. C'était un monsieur qui prenait des photos. On n'a pas soupçonné qui il était, mais il est venu nous parler. Et quand il nous a parlé, son discours était assez étonnant. Oui, mais en même temps, vous comprenez bien, c'est les Juifs que vous boycottez. Donc on a eu des réponses, mais monsieur, vous sortez d'où ? On ne boycotte pas du tout les Juifs, on n'est pas pour ça. D'ailleurs, certains de nos militants sont Juifs, donc je ne vois pas pourquoi on boycotterait les Juifs. Donc il y avait des questions qui attendaient réponses, en fait. Et il a parlé avec plusieurs personnes. Et comme on n'est pas du tout là-dedans, ben, ils n'ont pas pu nous piéger, en fait. Parce moi, je sens qu'à la base... Moi, j'ai eu des questions très, très sur les Juifs, en fait. Alors que du coup, ben, moi, très étonnée, très, voilà, les réponses ont été claires. Donc moi, il m'a dit oui, mais en même temps, voilà, c'est quand même des Juifs, les Israéliens. Donc j'ai dit non, monsieur, il y a même des Israéliens qui sont contre tout ce qui se passe. Moi-même, à Toulouse, j'ai eu l'occasion d'accueillir des Israéliens juifs qui étaient à Toulouse pour protester contre le mur. Donc les réponses, je pense qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils s'attendaient vraiment à d'autres questions, à d'autres réponses. D'ailleurs, je pense qu'il est venu volontairement voir des personnes... racisés, musulmanes, pour leur poser ce genre de questions. Parce qu'ils savaient que c'était plus eux qui pourraient avoir peut-être tendance à répondre « Ouais, on boycotte les Juifs », alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, il est venu volontairement. Moi, je sais qu'il a posé des questions à plusieurs de mes amis. Comme par hasard, il n'est pas allé vers les Blancs vraiment pour poser les questions.
Ouais.
Donc, je pense que on a voulu faire par rapport à l'enquête, ils ont voulu le formuler autrement et ils n'ont pas pu. Et du coup, quand même, ils avaient commencé là-dedans. Voilà, le détective privé, il a commencé là-dedans. On n'allait pas tout arrêter et dire bah non, ce n'est pas des antisémites. Donc, on nous a collé d'autres étiquettes sur le dos.
Voilà. Et ensuite, vous êtes convoqué à la police. Comment ça se passe ? Du coup, on vient vous chercher. C'est une convocation libre. Vous êtes mis en garde à vue.
Non, on a été convoqué. Convocation libre. On nous a demandé un rendez-vous. Donc, moi, ils m'ont trouvé un commerce. Donc, ils n'ont pas trouvé mon adresse à la maison ni mon numéro de téléphone. Donc, ils ont trouvé le numéro de téléphone du travail. Donc j'avais une stagiaire et c'est la stagiaire qui m'a rappelé en me disant « la police veut te joindre ». Donc je pensais à une blague au début. Et ensuite j'ai eu ce monsieur qui m'a dit que j'étais convoquée. Et donc on a fixé une date pour... voilà, ça a tourné autour de questions, c'était une petite enquête. Le monsieur, on lui a évoqué, du coup on lui a dit « c'est bizarre, vous nous attaquez, il y a une plainte contre nous ». Alors que nous, on a porté plainte pour agression quand même. Et cette plainte, elle en est où ? Et là, il n'était pas du tout au courant de cette plainte. L'OPJ, c'est ça ? C'est comme ça qu'on dit, l'officier de police judiciaire. Il n'était pas du tout au courant de notre plainte. Et donc, c'est lui, d'ailleurs, qui a ressorti cette plainte en disant, bon, ben, apparemment, elle est antérieure, la plainte, donc forcément... Donc là, du coup, ça a été instruit, je pense, c'est son instruction par rapport à ça.
On ne sait pas s'il y aura des poursuites, mais c'est vrai que depuis, elle a été instruite, ce qui est nouveau.
Mais, du coup...
Parce que ce qui est quand même intéressant, c'est ce qui s'est passé au mois de janvier, quand on a été agressé. Parce qu'on est agressé par un commando d'une dizaine de personnes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, depuis l'attentat de la synagogue de la rue Copernic en 80, la communauté juive a mis en place des comités de défense de la communauté juive. Mais c'est des comités qui travaillent avec la police. C'est-à-dire qu'ils sont, quelque part, semi-officiels. Et leur rôle, c'est de protéger les lieux de culte. Voilà. Et la mise en place à Toulouse s'est faite, de fait, après les attentats de Mera. Et il y a même la Ligue de défense juive qui y a participé. Et donc, il y a une véritable milice d'une dizaine de personnes qui travaillent à d'autres tâches que ça, mais qui, en particulier, agressent les militants BDS et nous a agressés en particulier au mois de janvier.
C'était quoi cette agression, du coup? C'est des gens qui vous ont invectivé? Il y a eu des violences physiques?
Qui nous ont invectivés, qui ont essayé de nous déchirer les tracts et qui ont... Il y a un camarade qui a le nez... qui a eu le nez cassé, qui a eu les lunettes cassées, et un autre qui a été aussi molesté. Oui. Donc c'est quand même... Et là, donc, ils ont porté plainte, la plainte n'a pas eu de suite, on a demandé à la préfecture de rencontrer le préfet, parce qu'on considère que c'est quand même grave que des commandos comme ça puissent sévir là-dessus. La préfecture nous avait donné un rendez-vous, puis a changé de position au bout d'un moment, parce qu'il y avait une enquête contre nous. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre que, de fait, il y avait quelque chose qui se préparait, puisqu'on a été convoqué fin juin pour être inculpé. Alors, ce qu'il faut dire encore, c'est que le jour où on est cogné, il y a les flics sur place, flics de la BAC, qui sont là et qui regardent faire et qui ne sont pas intervenus, sont restés avec le commando sur place. Bon, ils se connaissent, hein, puisque les liens sont très étroits. Mmh. Ils travaillent, dès qu'il y a un problème, on va appeler ça cette milice, hein, appellent la police pour leur demander d'intervenir. Bon, on a les photos, on a tout, on va voir ce qui va sortir de là. Si la justice ne va pas plus loin, on passera au niveau de la presse pour présenter quand même des commandos qui sévissent sur Toulouse dans la plus grande impunité. Hein.
Mais là, donc, on parle d'une plainte pour agression de janvier 2015. Vous n'avez toujours pas de nouvelles?
Non.
Non, maintenant, elle a été instruite. Depuis qu'on est passé
en juin,
il y a un OPJ qui suit l'affaire. On ne sait pas s'il y aura des suites.
De,
hein. Après, c'est le procureur qui...
Test BDS, Bob wants best, baby.
sanction, en gros 2005, hein, depuis le mur. Ouais. En quoi ça consiste exactement?
Ben, je crois que ça consiste à isoler politiquement l'État d'Israël. Donc, bon, on s'adresse toujours à l'État d'Israël, hein, on s'adresse bien sûr pas au peuple palestinien, pas au peuple israélien, on s'adresse à la politique d'un État, qui est une politique, à notre avis, criminelle, qui est une politique d'occupation, qui est une politique d'apartheid. Et c'est cette politique qui est à peu près impunie, je veux dire. C'est-à-dire qu'au niveau international, il y a toujours des déclarations. Le gouvernement français est un des gouvernements qui a le plus de déclarations pour condamner la politique israélienne. Et puis ça continue comme si rien ne s'était passé. Et je crois que c'est ça. Le but, c'est donc, au niveau international, une campagne internationale qui nous permette d'isoler cet État, qui est un État voyou. Il faut dire qu'il y a, par exemple, 30 résolutions des Nations Unies qui n'ont jamais été appliquées par l'État d'Israël. Vous ne trouverez pas mieux au niveau international. Et au niveau international, c'est un État qui est considéré par les populations, les différentes populations, comme à peu près du niveau de la Corée du Nord. Je crois que c'est important, nous, justement, de jouer sur cet isolement, parce qu'il est fondamental si on veut bouger les choses. Et si on veut que le peuple palestinien puisse défendre ses droits.
Après, BDS, c'est une campagne internationale qui est à l'image du boycott en Afrique du Sud. Donc, la campagne de boycott en Afrique du Sud qui a donné des résultats. Donc voilà, on nous l'interdit aujourd'hui, alors que ça voudrait dire que nous, on est hors la loi parce qu'on boycotte. Ça voudrait dire qu'au jour d'aujourd'hui, les personnes qui ont boycotté l'Afrique du Sud, dont Nelson Mandela, seraient hors la loi en France aujourd'hui. Donc voilà, c'est une campagne internationale et voilà, on appelle tout le monde à nous rejoindre. J'ai parlé avec une dame qui faisait l'appel au boycott en Afrique du Sud à l'époque et qui me disait qu'au début, ils n'ont pas commencé, c'était pas facile, quoi. Les gens se moquaient d'eux, leur disaient ça sert à rien. Et on entend exactement la même chose de notre côté. Donc ça sert à rien, à ton échelle, tu feras rien. Sauf qu'on voit des résultats, vraiment des bons résultats sur le boycott. Donc voilà, petit à petit, chacun à notre niveau, on peut faire bouger les choses en Palestine.
Qu'est-ce que vous avez un peu comme résultat là? On a vu le cas de Orange. Est-ce que c'était une annonce ou est-ce qu'effectivement ils vont se désinvestir d'Israël?
On le saura dans 2 ans, ça. Mm-hmm. Mais enfin, déjà, rien que l'annonce, c'est déjà important. Parce que, bon, d'abord, ça crédibilise la campagne des investissements. Mm-hmm. Ça, c'est certain. Mais je crois qu'il y a le plus important qui nous intéresse, c'est le désinvestissement de Veolia. Mm. Parce que Veolia, donc, a quitté complètement Israël après avoir été sur le chantier du tramway. Tramway d'ailleurs qui a été en zone colonisée. Et donc leur départ, je crois que c'est une victoire. Mais après, il y en a au niveau international, vous avez des églises presbytériennes qui ont pris position, vous avez des fonds de pension qui ont retiré, vous avez énormément en Suède, en Norvège, au Canada, énormément de Pays-Bas, Royaume-Uni, énormément de réussite à ce niveau-là.
Sauf qu'en France, ça s'est resserré quoi, quand même, par rapport à cette histoire de boycott.
Mais la France et l'Allemagne sont deux pays particuliers. Je crois que sur la France, depuis, considère, que je pense que c'est la mauvaise Vichy qui est derrière. On ne touche à rien, on ne veut pas emmerder Israël, on ne veut pas que ça puisse être pris pour de l'antisémitisme, c'est-à-dire rentrer entièrement dans le jeu actuel israélien. Et l'Allemagne, bon, pour les raisons qu'on connaît, qui ne veut absolument pas se mouiller sur la question. Donc c'est vrai que, et en plus, il n'y a pas de tradition en France de boycott comme il y en a dans les pays anglo-saxons. Mmh. Ça, c'est une réalité. Par exemple, le mouvement syndical français a très peu de tradition sur ce terrain-là. Mmh. Donc c'est vrai que nous, on est en train de créer de nouvelles brèches. Ouais, de nouvelles brèches, ouais, sur ce terrain.
parce que tu parles en France, c'est tendu. Bon, vous avez parlé de la circulaire de 2010 de Michel Alliot-Marie, donc ministre de la Justice à l'époque, et donc qui est enjoint à ses procureurs d'apporter une réponse ferme. Mais il y a très récemment, le 20 octobre, la Cour de cassation qui va confirmer la condamnation de militants BDS et qui rend complètement illégal un petit peu, hein. Il y a
BDS
deux arrêts
alsaciens, hein.
Ouais, voilà. Et qui appelle, donc l'appel au boycott par un mouvement associatif ou citoyen pour critiquer la politique d'un État tiers est interdit, en gros, quoi.
Mais c'est surtout qu'elle est interdite et que du coup, les peines prononcées à l'issue de cette affaire sont quand même de 28 000 euros de dommages et intérêts aux parties civiles et à chacun des militants une amende de 2 000 euros avec sursis. C'est beaucoup. C'est pas mal.
C'est énorme. Comment vous réagissez à ça, du coup?
C'est-à-dire qu'il y a... On ne considère pas que cet arrêt veut dire qu'il n'y a pas une loi qui interdit en France le boycott. Et là, on n'a qu'une jurisprudence particulière, par exemple, de la Cour de cassation. Alors, on a beau dire que la Cour de cassation est la cour la plus haute du système judiciaire français. Il y a eu... Moi, j'ai été inculpé pour le procès BDS de Perpignan. J'ai été relaxé.
Donc, vu qu'il y avait un flou juridique jusqu'à maintenant, mais maintenant, il y a cette jurisprudence,
non,
est-ce qu'on ne va pas s'appuyer sur...
Pas du tout. Par exemple, ça voudrait dire que donc, nous, le 9, on est déjà condamné, ça voudrait dire. À mon avis, non, parce que l'entrave, il n'était pas question d'entrave dans le procès de Mulhouse. Voyez, c'était donc sur d'autres terrains. Je veux dire, ils ont fait feu de tout bois. C'est-à-dire que quand Alliot-Marie lance sa circulaire, elle n'était pas bourrée après avoir dîné avec le CRIF. C'était un truc qui a été réfléchi, étudié, pour dire comment, au niveau juridique, on peut casser BDS. Et ils ont essayé plusieurs choses. Ils ont essayé la loi sur la presse, qui veut dire en gros qu'on est des antisémites et compagnie, mais ça n'a pas marché. Dans mon procès, moi, ils ont dit, bon, on reconnaît que vous n'êtes pas antisémite. On est des militants antiracistes, c'était un peu difficile à prouver. Donc ils cherchent le terrain sur lequel ils peuvent arriver à nous coincer. Mulhouse, c'est vrai que c'en est un, hein, ça on le reconnaît. Hein. Bon, il y a quand même la Cour européenne derrière, tout ça n'est pas encore fini, mais ce n'est qu'une manche que nous avons perdue et le combat continue.
Ça veut quand même dire, s'il y a tous ces efforts qui sont faits en France pour nous faire arrêter de boycotter, ça veut quand même dire que ça fonctionne. Je pense que si on était juste quelques militants à boycotter, et je ne pense pas qu'ils se soucieraient ou qu'ils nous embêteraient. Je pense qu'ils commencent à voir vraiment que ça prend de l'ampleur.
C'est clair. Ouais.
En Israël, les gens, la politique commence à vraiment s'inquiéter de BDS. On l'entend quand même pour que Netanyahou fasse des communiqués en parlant de BDS. C'est que vraiment, c'est que ça commence à fonctionner.
Donc, et ils ont très peur, c'est les États-Unis. Leur grande trouille, c'est aux États-Unis. Par exemple, il y a une partie de la jeunesse juive des États-Unis qui entre dans BDS aujourd'hui. Alors ça, pour eux, c'est quand même un signal d'alarme. Et là, tous les chantages qu'on donne sur, par exemple, sur le personnel politique démocrate aux États-Unis, je crois que c'est 37% considèrent que l'État que Israël est un État raciste. C'est quand même... Tout ça a progressé. Et ça, je crois qu'ils le ressentent. Et c'est vrai qu'ils essayent de faire barrage partout. Hein.
Mais du coup, je voulais vous faire justement écouter un truc sur le BDS. Hein. C'est Pierre Samboul de l'Union juive française pour la paix qui, suite au déboire qui lui était arrivé, hein, pour une conférence justement appelée par le BDS à Toulouse, où il s'était fait arrêter par le GIPN chez lui, le RAID, pour avoir tué sa femme. Et donc, pendant qu'il tenait sa femme en joue, et lui aussi, alors qu'il était... Bon, il avait quand même fait 7 heures de garde à vue, une espèce de pataquès hallucinant déclenché par Ulkan, un hacker qui est basé à Israël, d'origine française. Je vous propose de l'écouter comme ça pour réagir dessus.
Je veux parler de ceux qui considèrent que le BDS est antisémite, de l'Alikra, de Naibrit, de JSS News et bien sûr du CRIF. Ils considèrent que critiquer Israël est antisémite. Vous les avez entendus s'exprimer sur les victimes civiles à Gaza et en particulier les 500 enfants tués pendant bordure protectrice. Non, bien sûr. Vous les avez entendus sur les villages des Bédouins du Néguev régulièrement détruits. sur les 800 000 Palestiniens qui ont connu la prison depuis 1967, sur l'occupation, la colonisation, l'apartheid, les crimes de guerre, ils approuvent. Ils disent combattre le racisme. Vous les avez entendus critiquer le rabbin de Safed qui dit que les Palestiniens sont des Amalécites et que la Torah autorise qu'on les tue tous avec leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux. Vous les avez entendus critiquer la nouvelle ministre de la justice, entre guillemets, israélienne, Ayelet Shaked, qui propose qu'on tue les mères palestiniennes puisqu'elles mettent au monde des terroristes. Vous les avez entendus soutenir les Falachas, les juifs éthiopiens, qui ont manifesté à Tel Aviv au cri de « En Europe, on a tué des juifs parce que juifs, ici on les tue parce que noirs ». Je veux dire quelques mots, je m'adresse aussi aux sionistes. Mes parents étaient des juifs membres de l'AMOI, la main-d'œuvre immigrée, les résistants étrangers du Parti communiste. Ma famille maternelle a été exterminée. Mon père, membre du groupe Manoukian, a été déporté à Buchenwald. Il faut que vous sachiez qu'à cette époque, Yitzhak Shamir, qui sera plus tard, pendant 7 ans, Premier ministre d'Israël, faisait assassiner des soldats britanniques. Ce n'était pas seulement un terroriste, c'était aussi un collabo. L'émancipation des Juifs en tant que minorité persécutée est indissociable de l'émancipation de l'humanité. La lutte contre l'antisémitisme est indissociable de la lutte contre tous les racismes, ceux qui frappent les musulmans, les noirs, les roms, les arabes. Face au génocide nazi, il y a ceux qui pensent qu'il faut traquer tout ce qui a poussé à cette horreur pour que cela n'arrive plus jamais. La lutte contre la barbarie est universelle. Et puis il y a la version tribale, la version sioniste, de ceux qui disent que cela ne nous arrive plus jamais. Et évidemment, ça veut dire tout à fait le contraire. Et ceux-là prétendent que le génocide nazi autorise que les Palestiniens paient indéfiniment pour l'antisémitisme européen. Les sionistes ne défendent pas les Juifs. Ils les mettent en danger en les semant d'être complices d'une politique criminelle et en les considérant comme traîtres, les Juifs qui restent fidèles à des traditions juives séculaires qui se sont opposées au racisme et à l'exclusion. Pire, vous avez entendu, Netanyahou est venu en France expliquer aux Français juifs qu'ils sont étrangers ici et que leur pays, c'est Israël. Seuls les pires antisémites s'étaient permis de nous traiter d'étrangers. Ceux qui prétendent traquer l'antisémitisme ont été bien silencieux sur ce coup-là. Alors oui, à l'Union juive française pour la paix, en participant à la campagne BDS France, nous sommes totalement fidèles aux Juifs qui ont combattu partout le fascisme, le racisme, le colonialisme et l'injustice. Et le BDS est en train de remporter de très grandes victoires et de casser l'image de cet État voyou.
Voilà, donc Pierre Stamboul sur le BDS. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit là ?
On n'a pas grand-chose à rajouter. Je trouve que c'est assez précis, c'est mesuré, je crois que c'est très clair.
Très percutant.
Très percutant. Après, ceux qui veulent entendre n'entendront pas. Parce que ce jour-là, d'ailleurs, quand il est venu, il y avait la présidente du CRIF qui voulait discuter avec lui, qui a essayé d'ailleurs de perturber la réunion publique. Et elle voulait lui expliquer que l'anti-sionisme, c'était l'antisémitisme du 21e siècle, ni plus ni moins. Là, je crois que sa démonstration est assez claire, Stamboul, sur justement, puisque c'était le sujet de notre réunion publique, c'était justement d'en finir avec cette équation anti-sionisme égale antisémitisme. Je crois qu'il faut lui tordre le cou. Beaucoup s'en servent, y compris le gouvernement français, les gouvernements français, il faut dire, de droite comme de gauche. Ils jouent là-dessus et en gros, vous êtes BDS, donc vous êtes, ça va même plus loin, vous êtes en soutien au peuple palestinien, donc vous êtes en soutien aux terroristes, donc vous êtes terroriste vous-même et ainsi de suite. Ça va très très vite. Et en plus, donc vous faites de l'antisémitisme. Avec ça, vous êtes directement condamné. Je veux dire, c'est une façon d'évacuer le débat et surtout, c'est une façon de n'apporter aucune critique à la politique colonialiste de l'État d'Israël. C'est ça qu'il y a derrière comme.
Arrive quand même dans une longue longue histoire de lutte contre l'État d'Israël hein, et sa politique. Comment est-ce que vous venez justement à BDS? Parce que c'est en 2005, c'est lancé, c'est au moment où il y a ce mur de séparation qui est construit. Comment est-ce qu'on vient aujourd'hui à BDS?
Oui, bon, déjà par rapport à BDS, bon, faut savoir que moi, quand j'ai rejoint BDS, c'était un peu flou, je savais pas si c'était une association ou quoi. Mais BDS, c'est vraiment une campagne. Donc voilà, n'importe qui peut la rejoindre à n'importe quel moment, même en son nom propre. Donc peut dire je soutiens BDS et je suis BDS. Parce que c'est vraiment une campagne, c'est pas une association, c'est pas un collectif, c'est vraiment une campagne nationale, internationale. Donc voilà, n'importe qui, à n'importe quel moment, peut venir rejoindre cette cause. Voilà, après, si tu veux en rajouter un peu, Bernard.
Donc comment on est venu? Je crois que la situation aujourd'hui, quand on voit les jeunes palestiniens risquer leur vie actuellement, je crois qu'on en est à 10 000 blessés, plus de 100 morts au niveau des Palestiniens. Bon, la presse occidentale ne parle que des morts juifs. Il faut quand même faire l'ensemble. Et il faut savoir que donc, l'armée israélienne a le droit de tirer à balles réelles à n'importe quel moment. Et incontestablement, elle le fait très très facilement.
Et sur les Arabes israéliens aussi, c'est-à-dire hein, c'est,
oui, tout à fait.
Les Palestiniens qui sont aussi parfois des Israéliens.
Tout à fait. Mm-hmm. Oui. Non, il y a là-dessus. Ça... Non, donc je crois que ce qui a changé, c'est que Oslo est mort. Et quelqu'un disait, la jeunesse aujourd'hui, elle n'a plus aucun espoir dans les partis palestiniens. Ça, c'est nouveau. Hein. Il y a toujours eu quand même... il y a eu le Fatah à un moment donné, il y a pu y avoir le Hamas, il y a pu y avoir une gauche qui a été très importante au niveau du peuple palestinien. Plus aucune, aujourd'hui, n'est crédible aux yeux des jeunes. Les jeunes, ils voient bien que les soi-disant négociations ont permis, en fait, à Israël à renforcer sa colonisation. Et ça, c'est une réalité, on peut le prendre. Depuis Oslo, Israël a renforcé sa colonisation, alors qu'on était soi-disant pour une marche vers la paix, ce qui est bien sûr loin d'être le cas. Et je crois que donc, les gens n'ont aucune raison d'espérer et ils n'ont plus confiance en ce qu'on peut faire leurs parents et les partis politiques que soutenaient leurs parents à ce moment-là. Je crois qu'on a une nouvelle génération qui apparaît dans une situation très très compliquée. Et c'est vrai que BDS rentre un peu là-dedans. BDS, c'est 170 associations de la société civile palestinienne qui lancent la BDS, souvent contre l'avis des partis en place. Et nous, on rentre dans ce cadre-là. Nous, on ne prend pas position sur un État, deux États, tel parti ou tel autre parti. Nous, c'est un soutien au peuple palestinien qu'on veut apporter à travers la campagne contre la politique d'apartheid israélienne.
Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un mot qui a grimpé, qui a fait son chemin pour qualifier Israël, c'est le terme d'apartheid. Si on voit, un anthropologue israélien, Uri Davis, hein, c'est pas le premier, mais en 1980, il écrit un livre qui s'appelle Israël, un état d'apartheid. Hein. En 2001, il y a des Sud-Africains, Ronnie Kasril, Max Ozinski, deux figures majeures de la lutte contre l'apartheid, qui vont essayer de lancer un pas en mon nom, Not in My Name, pour une campagne de désinvestissement, de boycott. Il y a pas mal de gens qui signent. Mais ça tombe un peu à plat. 14 juin 2002, c'est Desmond Tutu, hein, le prix Nobel de la paix 84, qui va apporter son soutien à ces initiatives-là. Mais c'est des choses qui ont eu du mal à émerger et qui aujourd'hui arrivent comme vraiment comme le fer de lance hein, de la résistance, en tout cas en dehors d'Israël, à la politique israélienne. Et ce terme d'apartheid, j'ai l'impression qu'il n'a pas été facile, et encore aujourd'hui, il n'est pas facile à imposer. Est-ce que dans les discussions, est-ce que ça, c'est des choses qui vous ont amené, est-ce que ça vous a armé pour pouvoir discuter avec les gens, ce terme d'apartheid, comment ça arrive pour vous?
D'abord, il a fallu l'imposer. Dans le mouvement de solidarité au peuple palestinien, le terme apartheid n'était pas reconnu par toute une série d'associations et d'organisations. Là, on allait un peu loin, c'était... Bon, aujourd'hui, je crois qu'à peu près tout le monde reconnaît les termes. Ça, c'est une première victoire. Les victoires de vocabulaire sont importantes dans la lutte politique. Et celle-là, je crois qu'on l'a gagnée là-dessus. Mais même au niveau israélien, il y a eu récemment des journalistes qui ont dit « je ne l'avais jamais dit, mais aujourd'hui, je dis « il y a parté d'Israéliens ». C'est aussi important. C'est-à-dire que, bon, je veux dire, c'est difficile aujourd'hui de ne pas s'en rendre compte quand même. Hein. Mais maintenant, des gens, y compris en Israël, le disent haut et fort. Ça, je crois que c'est quand même important, en particulier pour notre campagne, parce que nous, en fait, c'est un boycott de l'apartheid israélien qu'on mène. Et je crois que le tout se tient, quoi. Et en particulier, si on fait le parallèle avec la campagne qui a été menée sur l'Afrique du Sud.
On a vu un film, d'ailleurs, Roadmap to... Comment ça s'appelle déjà ? Roadmap, je pense que c'était ça. C'est un super film qui fait la parallèle justement entre l'Afrique du Sud et Israël. Et du coup, il y a même beaucoup de militants qui étaient anti-apartheid dans l'Afrique du Sud qui témoignent, et des militants anti-politique israélienne qui témoignent aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se ressemblent. Et pour beaucoup de militants contre l'apartheid dans l'Afrique du Sud, disent même sur plusieurs sujets que c'est encore plus grave en Israël ce qui se passe que ce qui se passe en Afrique du Sud. Un exemple simple qui ressortait dans le film, c'est par exemple en Afrique du Sud, il n'y a jamais eu des routes pour les Africains et des routes pour les autres. Alors qu'en Palestine, il y a des routes pour les Palestiniens et des routes pour les Israéliens. Donc c'est des exemples qui étaient donnés dans le film qui étaient incompréhensibles pour les gens qui avaient milité en Afrique du Sud. Donc vraiment, c'était un super film. Je crois que c'est Roadmap.
Mais tous les Sud-Africains qui ont visité la Palestine sont revenus choqués de la situation et expliquent que Israël n'a rien envié au pouvoir des Blancs en Afrique du Sud.
Mais après, c'est vrai que c'est quelque chose que tu disais, peut-être on peut finir un peu là-dessus, mais autant BDS, je pense qu'il y a une vraie force qui se contient, mais il y a quelque chose qui a changé par rapport à des campagnes, comment le thème de la cause palestinienne était porté dans les années 80-90, c'est qu'il ne s'agit plus de parler de solution. Il s'agit de parler d'arrêt, déjà, d'une injustice, mais quelque part, on a laissé tomber, est-ce que deux États, un État, plus d'États, etc., parce que quelque part, noyé par l'impossibilité de règlement de ce conflit qui dure depuis 48 et de plus savoir, et c'est comme si BDS permettait de dire déjà au moins que ça s'arrête cette horreur, cet état là puis après on verra bien. Est-ce que du coup c'est pas aussi quelque part des fois un recul sur les possibilités, le débat de dire mais qu'est-ce qu'on fait après, quoi?
Si on tire le bilan depuis 48, il n'est pas très positif. Hein.
Ah, c'est sûr.
Pour en arriver à Oslo et ce qu'a donné Oslo. Mmh. Et encore, et aujourd'hui, qui c'est qui peut croire en la viabilité d'un État palestinien ? Je veux dire, le débat sur un État, deux États, il est quasiment terminé parce qu'il n'y a plus d'État palestinien viable aujourd'hui. Mmh. Donc, il est mort. Enfin, c'est Israël qui l'a assassiné. Cette possibilité. Donc, je veux dire, après ce qu'on disait, c'est l'état des forces politiques palestiniennes. Mais ça, nous, on ne peut pas rentrer dans ce débat-là. Nous, on apporte, c'est une solidarité internationale. Notre solidarité internationale pour le droit du peuple palestinien, c'est d'en finir avec l'impunité de l'État israélien. Et ça, déjà, je crois que ça leur apporterait énormément là-dessus. Ça, c'est pas gagné, parce que je veux dire, le soutien, l'ONU, ferme sa gueule, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y a toujours des déclarations, hein. Tout le monde fait des déclarations, c'est extraordinaire hein, sur le conflit, mais au niveau pratique, il n'y a rien. Mmh. Ils ont presque, quand vous entendez les déclarations de l'ONU, ils mettent dos à dos l'armée israélienne et les Palestiniens avec un couteau. Les autres, d'un côté, il y a un armement atomique, une des armées les plus puissantes de la planète. De l'autre côté, des gens qui se battent avec des couteaux de cuisine. Et on nous met ça en dos à dos.
Vous parliez tout à l'heure de la campagne BDS qui portait une critique contre l'État d'Israël et contre sa politique coloniale. Moi, je voulais savoir si ici en France ou ailleurs dans d'autres pays, la campagne BDS portait aussi une critique sur les États dans lesquels elle était implantée vis-à-vis de leur soutien à l'État d'Israël.
Vous savez, le pays de la planète qui soutient le plus l'État d'Israël, je crois que c'est la France, puisque c'est le premier pays à essayer de condamner la campagne BDS. Ben ça, il faut quand même il faut le noter. Je crois qu'il y a après, il y a Israël. Et Israël, ce n'est pas encore passé au niveau de la Cour suprême. Il y a encore des problèmes au niveau de la condamnation du BDS. Alors qu'en France, tout est fait pour condamner. Il y a eu cette circulaire, il y a la Cour de cassation aujourd'hui. Donc je veux dire, on est... Ça, il faut quand même y insister. On parle de BDS. Je crois qu'il y a une volonté du gouvernement français, du lobby pro-israélien, français pour casser la campagne BDS en France. Et ils s'en donnent les moyens. Je crois que ça, il faut l'avoir en tête. Quand on voit un peu ce qui arrive aux militants BDS sur Toulouse, qui est une ville un peu particulière, mais on a eu des meetings interdits, on a été cogné par une milice pro-israélienne, on a aujourd'hui un procès. Enfin, c'est un harcèlement considérable pour essayer de nous faire taire, plus des amendes dont vous parliez tout à l'heure. Je veux dire, tout est fait pour nous faire taire. Je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on dise, et il faut qu'on soit suivi là-dessus, on ne se taira pas. Et il faut nous aider à ce qu'on ne se taise pas en tant que BDS, parce que le risque est grand quand même. Hein. Et je crois que notre avocate disait, vous avez contre vous le gouvernement français, soutien total de Hollande, souvenez-vous, à Gaza, à l'intervention militaire israélienne à Gaza. Vous avez contre vous, bien sûr, le lobby pro-israélien local qui a quand même pris une place importante, et vous avez contre vous l'État d'Israël qui intervient, y compris sur l'affaire BDS, auprès des gouvernements pour leur demander de condamner et tout. C'est quand même, je veux dire, on a un sacré acharnement sur la question.
On a un sacré acharnement, et tu dis qu'on n'a pas de tradition de boycott en France. Moi, j'aimerais rappeler un boycott de 2011 hein, qui avait été lancé par le plus haut sommet de l'État, hein, par une certaine Carla Bruni-Sarkozy, contre le Mexique pour Florence Cassez, et donc pour une détention qui avait été jugée abusive d'une femme qui était Florence Cassez. Donc, et je souligne ça parce que c'était l'année du Mexique en France qui a été boycottée par des mairies, notamment la mairie de Toulouse, et qui a attaqué donc des artistes. Et je dis ça parce que souvent, il y a aussi cette critique sur le BDS qui réclame aussi aux artistes de ne pas aller en Israël, aux artistes israéliens de prendre position, etc. Et aussi aux universitaires de « Ah, vous boycottez les universitaires, etc. » Bon, voilà, du plus haut sommet de l'État. Et puis on sait que voilà, le boycott contre l'apartheid a fonctionné du jour où les équipes de rugby ont plus pu jouer dans les trucs internationaux. Donc c'est aussi important que ça passe aussi par la culture. Ce n'est pas juste une attaque économique pour le BDS, donc pour la fin de l'occupation et de la colonisation, pour l'égalité complète pour les citoyens arabo-palestiniens d'Israël et le respect du droit au retour des réfugiés palestiniens. C'est les trois objectifs que s'est donné BDS il y a maintenant 10 ans. Et maintenant, pour vous, c'est le 9 décembre. 9 décembre, le procès donc, de dangereux criminels qui ont mis le feu à des... Non, c'est pas ça.
Qui ont surtout mis le feu à la liberté de commercer, hein, puisque c'est ça, en gros, qu'on leur reproche. Donc, ce sera au tribunal correctionnel à 14h, c'est ça?
Oui, c'est ça, à 14h.
Il y a un rassemblement
décembre.
Oui, un rassemblement à 13h devant le tribunal. Je rappelle juste aussi qu'on on a des frais d'avocat et que, du coup, on est nombreux à boycotter et appeler au boycott. Il y a la cagnotte Litchi qui monte pas beaucoup, donc il y a une cagnotte Litchi que vous pouvez rejoindre pour nous aider aussi à payer les frais du procès.
La cagnotte Litchi, c'est sur Internet, c'est ça?
Voilà, c'est sur Internet. Si la cagnotte Litchi, vous pouvez la trouver sur Facebook, sur le groupe Appel au soutien des cas inculpés. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui c'est nous, mais demain ça peut être quelqu'un d'autre qui boycotte aussi. Donc on a besoin vraiment d'être soudés et de montrer que c'est pas l'argent qui va nous bloquer à continuer le BDS.
D'accord, voilà. Mercredi.
Merci à Canal Sud du coup aussi.
Avec plaisir, parce que mercredi 9, 13h, devant donc le tribunal de grande instance, c'est juste à côté d'ici, c'est métro Palais de Justice ou d'Injustice, c'est selon. Merci beaucoup d'être venu parler de tout ça.